Tout ça parce que vous allez nous parler de l'heure du bain, cher Serge.
L'heure du bain, oui, oui, oui. Tiré de la revue Nostalgie de novembre dernier, novembre 2003.
Alors, 2003?
2023. 2023, excusez-moi, 2023, oui. Alors, c'est donc le titre, c'est « L'heure du bain », un article de Manon Rivard. Alors, nos salles de bain du 21e siècle, qui parfois vont jusqu'à avoir deux lavabos et une baignoire à jet, et même des fois une douche séparée, feraient pâlir de jalousie n'importe quelle personnalité riche du 20e siècle. Revenons en arrière, alors que faire sa toilette en faisant couler autant d'eau chaude était un privilège et un véritable luxe. On l'oublie souvent, ça. Il semble qu'au Canada, comme dans la plupart des pays occidentaux, peu de gens aient eu accès à un équipement pour se laver avant le 20e siècle. Nous expliquons sur le site du musée McCord en notant qu'à Montréal, la plupart des foyers modestes n'avaient pas de baignoire, et ce, jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, un seau en bois, en métal ou un grand bol en porcelaine, ainsi qu'une éponge faisaient l'affaire. Imaginez un instant le travail, hein? Il fallait chercher l'eau à l'extérieur de la maison, la réchauffer dans une marmite sur le poêle à bois, de même qu'il fallait évidemment aller chercher du bois et l'allumer si le feu était éteint, ou sur la cuisinière, la verser l'eau dans le seau et ensuite essuyer les éclaboussures faites par les tout-petits. Un gros travail.
Travail à temps plein.
Oui. Dire qu'aujourd'hui, on ne soucie ni de la fréquence des douches, certains peuvent se laver plusieurs fois par jour, ni de la quantité d'eau qu'on met dans la baignoire. On en met beaucoup.
Mais là, de plus en plus, on prend conscience du gros gaspillage.
Oui, comment ça tend aussi. Ouais. Ouais. Il a fallu attendre le raccordement du réseau public aux maisons pour avoir de l'eau courante. Ensuite, l'ancêtre du chauffe-eau, qui était un radiateur à eau chaude, pour l'eau chaude. Et bien sûr, une baignoire pour enfin arriver à prendre un bain. Néanmoins, s'il y avait une baignoire dans la maison, ce n'était pas pour autant un luxe quotidien, comme s'en souvient Monsieur Bernard, qui a aujourd'hui 60 ans. Il se rappelle la maison à deux étages qu'il habitait dans les années 1960 avec sa grand-mère maternelle qui en occupait, elle, le bas. C'est à cet endroit qu'était situé le seul bain de la maisonnée. Donc, il fallait avoir l'aval de la grand-mère, se souvient-il, pour s'y plonger plutôt que de se contenter d'un simple nettoyage à la débarbouillette ou à l'éponge, car l'utilisation de la baignoire en était restreinte.
Au moins, il y avait un bain dans la maison.
Au moins un, oui, oui. Et pas par manque d'eau courante ni d'eau chaude, mais surtout parce que les habitudes de l'enfance de la grand-mère se répétaient d'une génération à l'autre. On pouvait prendre un bain par mois, si mon souvenir est bon, et j'utilisais toujours la même eau que ma sœur aînée.
Ah oui.
Bon, ouais. Sinon, ma mère utilisait une cuve en porcelaine pour nous laver lorsque nous étions bébés. D'ailleurs, j'ai retrouvé cette cuve de porcelaine après son décès dans le vieux hangar derrière la maison.
Souvenir.
Oui, ma grand-mère l'avait peut-être utilisée elle-même, hein? Qui sait? On ne sait pas. Si en 2019, plus on se lave, mieux on se porte, l'inverse semble être vrai au siècle dernier.
Moins on se lave, moins on se porte?
Plus on se lave, mieux on se porte.
Oui, mais vous dites que l'inverse...
Oui, ben oui. L'inverse semble être vrai.
Oui.
Semble être vrai au siècle dernier. Mieux on se porte.
Non, c'est parce que vous dites que...
Oui, c'est bizarre, hein? Comme, oui.
Répétez la phrase. Plus on se lave, plus mieux on se porte.
L'inverse semble être vrai au siècle dernier.
Alors, moins on se lave, moins on se porte.
Mieux on se porte, plus on se lave.
OK.
Non, je pense que c'était moins on se lave,
être
mieux on se porte.
Être ou ne pas être.
Je pense que c'est moins on se lave, mieux on se porte. Parce que les bains, à un moment donné, de trop se laver n'était pas bon anciennement parce que tu enlevais la protection de la peau, supposément.
Mais aujourd'hui aussi, on nous dit de ne pas exagérer là, sur trois douches par jour quand même.
Oui, là, c'est un peu beaucoup. D'ailleurs, considérant que le manque d'hygiène est un enjeu municipal, à Montréal, par exemple, les bains publics comme le bain Wellington ouvriront dans les années 1800 à l'initiative de la ville. Et en 1866, un groupe de médecins fonde la Montreal Sanitary Association, en anglais, hein, nous explique le site du musée McCord. Ces médecins hygiénistes réclament des mesures pour améliorer la santé de leurs concitoyens. La construction de bains publics, ou mieux encore, le raccordement de toutes les maisons au réseau d'égouts, sont quelques-unes des solutions envisagées pour assainir une ville de plus en plus insalubre. parce que la population augmentait de plus en plus. Alors, évidemment, les toilettes étaient à l'extérieur de la... Je vous passe les détails, là, mais je pense qu'on a tous l'image. Chaque logis pourrait dès lors être muni d'un bain et d'un cabinet de toilettes. Les fosses d'aisance seraient bannies et l'air n'en serait que plus sain. Voilà des mesures excellentes pour contrer les épidémies qui frappent les villes régulièrement au cours du siècle. S'étonnant d'une médecine préventive résolument orientée sur l'hygiène, vont poursuivre leur combat au sein du Bureau de santé de la Ville de Montréal. Du côté de Québec, de la Ville de Québec, le premier bain public remonterait au début du 19e siècle, quand même assez tôt, les années 1800, comme nous le rappelle le site du Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Les premiers bains publics à Québec apparaissent en 1817 au coin de la rue Saint-Charles et de ce qui deviendra la ruelle des Bains. C'est Robert Christie, qui a vécu de 1787 à 1856, homme politique et éditeur de journaux, qui a ouvert ses bains publics dans un bâtiment qui était occupé depuis 1780 par une boulangerie. un beau changement. L'établissement offrait des bains froids, tiède, chaud et de vapeur, de même que la possibilité pour ses clients d'y consommer boissons et repas. Alors, depuis 1985, on y trouve des logements à louer.
Ah oui.
Oui, ça a bien...
Il y en a un bain public, un ancien bain public tout près d'ici, là, sur Atatécune, l'Éco-Musée.
Maintenant, c'est l'Éco-Musée, oui.
C'est beau.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de ces bains-là qui existent à Montréal.
Le bain Saint-Denis, je pense, sur Saint-Hubert. Je ne sais pas s'il s'appelle le bain Saint-Denis, mais il y en a un bain public la rue Saint-Hubert.
Il y en a un, c'est le Schubert sur Saint-Laurent.
Le Schubert.
Oh, bien, peut-être un sur Saint-Hubert aussi, là.
Oui, oui, oui.
Mais il y avait sur Saint-Laurent.
Je peux vous le confirmer.
Ah, OK. Schubert, puis il y en a un autre... en le coin de Saint-Laurent.
Mais là, ils ont tous changé de location.
Certains sont restés ouverts. C'est des piscines.
OK.
Évidemment, il n'y a plus tous les services, mais c'est au moins des piscines. Parce que c'est des très belles piscines, mm-hmm. Décorées art déco le plus souvent. Ouais. Ouais, c'est vraiment très, très beau.
Il y a déjà eu une pièce de théâtre qui a été présentée dans un bain public. Mais le bain public à l'Écomusée, là, ce n'est pas une piscine.
Non,
Non,
oui. En 1933, selon les archives de la Ville de Montréal, on comptait 23 adresses de bains généralement nommées en l'honneur d'un conseiller municipal, où on trouvait douches et piscines intérieures. Ces endroits étaient destinés majoritairement aux hommes, clientèle qui avait davantage besoin de se laver que les autres, les travailleurs d'usine par exemple, ou encore les bûcherons qui revenaient des camps. Les femmes pouvaient y aller, mais seulement à des jours ou à des heures déterminées, et en 1978, on déclara ces endroits mixtes. Puisqu'au milieu du 20e siècle, les conditions de vie s'améliorent, les traditions changeront. La construction de salles de bain dans les appartements, par exemple, incluant une baignoire avec eau chaude, fera en sorte que les bains publics ne seront plus autant utilisés, et ces derniers devront ainsi revoir leur vocation et multiplier leurs offres, notamment cours de natation, nage synchronisée ou plongée. Un joli souvenir ici. D'une dame qui s'appelle Manon. Ma grand-mère Clémentine, c'est...
Clémentine?
Ben, on parle de Clémentine. qui était la deuxième plus vieille d'une fratrie de 12 enfants, me racontait à quel point elle était contente de savoir que sa mère était de nouveau enceinte.
Pourquoi?
Car elle allait enfin pouvoir sentir de nouveau le doux parfum du savon, le Baby Zone.
Ah oh, oui!
Pour bébé qu'elle achetait. Elle aimait vraiment cette odeur-là et elle cassait des petits bouts du savon qu'elle mettait dans les tiroirs. Et je me souviens que j'ouvrais ceux-ci juste pour en humer l'odeur, nous raconte-t-elle.
Est-ce qu'il existe toujours ce savon-là? Parce que moi aussi, j'adore cette odeur-là. J'avais mon père, qui n'est plus malheureusement, mais même adulte, là, aimait se laver avec ce savon-là pour son odeur, pour sa douceur.
Oui. Je sais que les dermatologues le recommandaient il y a peut-être une vingtaine d'années ou trentaine d'années.
Bon, on va demander à notre recherchiste préféré,
M. Tessier,
qui est vite sur son téléphone.
Il me semble que là, je le vois à la pharmacie.
Oui,
dans le coin pour les bébés.
OK. Bien, j'imagine, dans le coin des bébés.
Oui.
Mais si le Baby Zone n'existe pas, vous avez quand même une recette de savon à nous donner tout de suite après cette chanson.